carrefour des arts. Une émission de la rédaction de Canal Académie.
Alors, je suis en compagnie de Pierre Caron, membre, vous l'avez deviné, de l'Académie des Beaux-Arts. Et vous présentez dans cette exposition un tableau de grand format et deux de plus petits formats.
Un plus petit format et un format, au fond, les formats sont toujours un peu petits, d'un mètre 62 par un mètre 60 à peu près.
Vous qui êtes à l'Académie depuis plusieurs années, c'est la première fois que vous vous voyez réunis, non pas en tant qu'individu, mais en tant que peintre, tous ensemble ?
C'est la première fois que les tableaux sont regroupés dans une exposition. Ce qui apparaît immédiatement, c'est peut-être la différence ou la diversité des points de vue sur la peinture, qui prend des formes extrêmement différentes à mes yeux.
C'est une grande richesse.
Oui, c'est à la fois une richesse et en même temps, cela montre que les choses ont changé. Ce qui est une évidence.
Parce que vous êtes de différentes générations, de différentes écoles, de différents pays même.
Oui, mais ce n'est pas tellement cette différence-là qui est visible. Ce sont des engagements qui, quelquefois, n'ont plus beaucoup de rapport avec l'héritage. J'entends par héritage ce que nous montre le musée.
Vous voulez bien expliciter ce que vous voudriez dire ?
C'est assez difficile parce qu'il faudrait entrer dans des réflexions presque philosophiques. Pour prendre le plus simple, il est difficile maintenant de s'accorder sur ce que représente la beauté, par exemple. C'est très compliqué parce que personne ne s'entend sur cette question. On estime que chacun a sa vérité, que tout ça est très subjectif, alors qu'on peut s'opposer à ce système de réflexion, en pensant que si l'on trouve quelque chose de beau, c'est pas forcément la chose qui est concernée, qui est transformée par l'appréciation de celui qui regarde. Parce qu'on a une tendance comme ça, derrière la subjectivité, à égaliser le beau, comme si la vérité n'existait pas, en quelque sorte, dans ce domaine. Mais c'est une discussion, ce sont des propos. Il faudrait avoir les moyens de les développer. Il faudrait être autre chose qu'un misérable artiste.
Pour certains artistes, la question de la beauté ne se pose même pas. Ils font abstraction de cette question-là. Pour vous, la question de la beauté se pose.
C'est fondamental, en quelque sorte.
C'est une question que vous vous posez en peignant ?
En peignant, j'essaie de m'en poser le moins possible. L'attitude du peintre, telle que je la conçois, c'est d'être devant un écran et essayer de faire apparaître ce que l'on désire voir. Et à un certain moment du travail, peut-être, on aperçoit des choses que l'on avait oubliées et qui tout d'un coup émergent à la surface du tableau. Et là, on peut dire que ce n'est plus un raisonnement, c'est simplement le mode qui serait le meilleur pour apprécier la beauté ou les tableaux, c'est de reconnaître. Je trouve que ce terme est important parce que ça rejoint le processus que j'essaie d'indiquer. C'est-à-dire, tout à coup, dans la matière que l'on manipule, on reconnaît quelque chose qui vous semble essentiel. Et c'est à partir de là que le tableau, tout d'un coup, s'anime. Il suffit presque de l'accompagner. Et il se transforme, en dépit de vos idées, heureusement, presque en dehors de vous. On peut penser même à autre chose en peignant. Il vaut mieux d'ailleurs. C'est une manière de se vider de ses prétentions.
Vous, vous êtes accroché, enfin vos peintures sont accrochées. Alors ici, en l'occurrence, à côté de Patandrea, un peintre également figuratif. Vous y voyez quelques correspondances entre...
C'est là où la difficulté est considérable. C'est pas, on ne peut pas s'associer parce que seulement on serait figuratif.
Oui, bien sûr, les lignes de frontière sont beaucoup plus subtiles.
C'est évident que ça ne résout pas la question d'être figuratif. Vous voyez, c'est le grand problème en sortant de votre question précise sur Patandrea. C'est le problème de votre question est tout de suite illustré par le fait des pompiers et des impressionnistes, ou de Degas en particulier. Vous avez Degas dans le même temps que ceux qui sont considérés comme mauvais, les pompiers. Les deux ont le même objectif. Ils sont tous les deux classiques. Degas passe son temps au Louvre, enfin une partie de son temps. Il réfléchit en particulier sur Mantegna, sur les deux tableaux. Et les pompiers, de la même manière, qui seraient mauvais, eux-mêmes regardent le musée et ont ce désir d'exalter la beauté comme Degas l'a. Simplement, Degas a l'intelligence de trouver le moyen de refaire les tableaux anciens qu'il admire, comme ceux de Mantegna, en prenant un thème plus direct. Mais vous voyez à quel point il est difficile. Il y a figuration des deux côtés, il y a un désir identique, et il y aurait des mauvais et des bons, ce qui est tragique, mais qui illustre parfaitement la complexité du problème posé.
Sans dire qui est mauvais, qui est bon, mais qui... comment voyez-vous, moi ça m'intéresse d'avoir votre vision de Patandrea.
Le contact avec le tableau est immédiat. Le thème qui est complètement transposé crée un trouble profond. Et à partir de là, on entre dans l'univers directement d'une personne. C'est plus difficile, quand on n'en a pas l'habitude, d'entrer dans un univers formé de signes, d'une forme d'écriture, d'un langage très particulier, tel que l'abstraction dont on parle, qu'elle soit géométrique ou lyrique ou autre. Et évidemment, au-delà de ces considérations sur schématiquement une figuration et une abstraction, il y a au-delà de ça beaucoup d'avancées, mais comment peut-on dire des avancées ? Ce sont peut-être des reculs, avec toute une production contemporaine qui n'a plus rien à voir avec ce type de travaux de peintres. Il y a un moment où il semblerait que l'histoire, depuis les origines, au fond, s'est développée dans une logique parfaite de transmission. Jamais quelque chose s'est interrompu. Des relais ont toujours été pris. C'est visible avec la peinture romaine et la production romaine et l'arrivée du christianisme qui tout d'un coup va prendre les mêmes artistes pour changer de thème. La transmission a toujours été tranquille jusqu'à une certaine période. C'est-à-dire on pourrait la situer, tout d'un coup le dadaïsme va provoquer des changements profond. Et peu à peu, pour aller plus vite, on pourrait dire qu'il n'y a plus, presque plus de traces des artistes tels qu'ils ont été. On peut estimer que peut-être c'est une... Ils sont en voie de disparition.
Des artistes sans art ?
Non, mais des artistes qui ont... qui sont encore dans des systèmes de référence, où il y a quelque part Cézanne qui était, pareil, semble-t-il, le père de l'art moderne, enfin des choses qui n'ont plus aucun sens. Et puis le désir de profanation. Et on voit toujours Buren doit être au Palais Royal, autrement ça n'a aucun intérêt. Parce que quand il est ailleurs, on ne le voit même pas. Alors il y a ce désir du, comme un désespoir, comme si plus rien n'était possible. Mais si on devait faire une analyse comme ça un peu profonde, il faudrait vraiment s'interroger sur la transformation fondamentale de ce qui avait duré jusqu'à nos jours. Plus rien à voir avec Lascaux, même si on veut le récupérer avec Yves le Monochrome, avec les empreintes sur les murs, ça n'a pas de sens. C'est une supercherie supplémentaire, une imposture. Alors évidemment, quand j'emploie les termes, les mots d'imposture, moi-même, je me sens, quand je pense au musée, presque dans un état d'imposture. Quand on me demande si vous êtes quoi et que on me force à dire que je suis peintre, j'ai beaucoup de mal à le dire, parce que j'ai toujours en référence des chefs-d'œuvre. Si je fais un tour d'horizon, à l'intérieur de moi, je vois apparaître la Vélème des Mystères, je vois aussi bien des choses absolument différentes les unes des autres. Je vois Mantegna, bien sûr, mais je vois Courbet, je vois des chefs-d'œuvre, tel tableau. Alors comment peut-on encore, en parallèle avec ça, s'affirmer peintre ? J'ai le désir, c'est tout. Alors j'y consacre mes forces, mais ce n'est pas parce qu'on se donne du mal ou qu'on veut s'affirmer artiste qu'on l'est. La production d'un artiste, à mon avis, dépend de la chance qu'il a, ou l'absence de chance.
Est-ce que vous pourriez nous parler aussi de vous par rapport à vos confrères, par rapport à ce qui se passe ici maintenant dans cette exposition ? Comment est-ce que vous voyez, vous, en tant qu'individu peintre, parmi l'ensemble de vos confrères, qu'est-ce qui vous frappe ? Est-ce que vous regardez votre peinture d'une nouvelle façon, d'une autre façon ?
Je la regarde comme je la regarde dans l'atelier.
Ne change pas en étant ici.
Je pense pas que la peinture change. En tout cas, la peinture est condamnée à changer d'endroit. Ce qui n'était pas d'ailleurs une vérité totale pour la production artistique. C'est sans doute un des éléments qui est la cause d'une certaine dégradation. Quand la peinture est séparée des bâtiments, et c'est le cas aujourd'hui. Malheureusement, ça devient plus fragile encore. De tout temps, les artistes ont peut-être fabriqué des choses pour eux-mêmes et détaché d'un contexte. Mais la force tenait dans les grandes productions de création, au groupe qui fabriquait l'art. Les mots ne sont pas très appropriés de fabrication, mais quand on pense aux frises de Delphes, par exemple, ce n'est pas l'affaire d'un homme, c'est par relief, la lionne transpercée. C'est l'affaire d'un groupe humain et d'une société qui, sans le savoir, veut ça. Mais on entrerait là dans un autre propos qui est celui de l'art lui-même et de sa fonction dans l'univers. À quoi sert l'art? On peut répondre, enfin on peut essayer de commencer à avoir une piste, c'est de construire un univers parallèle qui, lui, ne bougerait plus, ne serait plus soumis au temps, qui aurait une importance dans la durée du monde, quand le temps pourrait disparaître. Quand tout d'un coup, tout deviendrait immobile, comme ça. Mais vivant, ce qui est paradoxal. Mais toutes les vérités sont toujours faites de contraire. Mais vous voyez, je suis en train d'essayer de philosopher et je me rends compte à quel point c'est difficile d'argumenter ce qui pourtant me semble assez fondamental comme question.
Vous parliez de l'individualité du groupe dans l'art. Là, vous êtes quand même tous ensemble une somme d'individus.
Oui, nous sommes une somme de personnalités on pourrait dire côte à côte, ce qui nous réunit absolument, parce qu'il faut aussi voir les aspects très, très, comment dirais-je, optimistes, c'est que tous ceux qui sont autour savent ce qu'est la peinture. Ce qui n'implique pas forcément, pour en revenir à ce que je vous ai dit tout à l'heure, ce qui n'implique pas forcément d'avoir la chance de trouver la solution dans une perspective idéale. Mais tous savent, ça nous réunit.
Ce qui me frappe dans vos propos, c'est que vous parlez beaucoup de beauté et d'idéal. Ça vous correspond, en fait?
Je vois pas comment l'exercice d'un métier qui consiste à transformer de la matière en une idée pourrait être autre chose qu'un peu mystique. C'est un travail. Au fond, l'artiste tel que je pourrais l'expliquer, enfin, dire quelle est sa nature, c'est celle d'un alchimiste. L'alchimiste poursuit, lui aussi, une transformation de la matière. Et les couleurs, les pigments, l'huile ou la térébenthine ou les pinceaux d'une certaine forme, tout ce qui est de l'ordre du métier, n'est là que pour se transformer entièrement en quelque chose qui apparemment n'a rien à voir avec la matière. Il ne suffit pas d'avoir une belle matière, il ne suffit pas d'avoir des belles couleurs, il ne suffit pas d'avoir tout ça. Il faut qu'à la fin du compte, cet assemblage du tout échappe et passe dans un autre stade. Alors bien sûr, je parlais tout à l'heure de reconnaître pour un public. Il me semble que tous les publics ont la capacité de reconnaître, même s'ils ne connaissent pas la peinture, s'ils ne connaissent pas la technique, s'ils n'ont pas l'habitude des musées. Je pense à certaines fresques dans une église, telle sculpture à l'extérieur. Je pense que les gens qui passaient là, ils la ressentaient, même si inconsciemment. Mais l'intuition les faisait quelquefois lever les yeux vers les frontons. Et ce qu'ils voyaient se découpait sur le ciel. Et peut-être, sans le savoir, ils étaient peut-être plus instruits de l'art que ceux dont c'est la profession, je pense.
Et reconnaître, c'est se reconnaître aussi. dans ce qu'on voit.
C'est l'intuition qui fonctionne à ce moment-là. C'est-à-dire que vous êtes, tout d'un coup vous ressentez, mais ça vous le ressentez pas seulement avec les tableaux, c'est l'univers entier. Alors telle partie de l'univers que vous ne considériez comme, presque comme une chose, tout d'un coup se révèle à vous comme un être. Et de plus en plus, je trouve que la conscience contemporaine, peut-être, a compris ça avec ces crises sur l'environnement et tout ça. Tout d'un coup, un autre regard s'est porté sur l'univers. Et reconnaître, c'est tout d'un coup voir la beauté d'une chose et se presque dire que cette vision pénètre en vous. À ce moment-là, l'arbre que vous regardez, il est vous-même. Il se constitue comme ça, c'est comprendre. Le mot est d'ailleurs superbe, comprendre. Alors on comprend l'oiseau qui passe sur la mer, on regarde le cormoran qui sèche ses plumes sur un rocher tout seul, pendant qu'à Paris, on s'agite, comme je le fais maintenant en agitant des idées. Souvent, je dis, en ce moment, il y a un cormoran qui sèche ses plumes sur un rocher dans le Finistère. Je le connais. Je connais le rocher et je connais le cormoran.
Merci beaucoup, Pierre Caron.